Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres tu... Non,
non, non, non, non.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi d'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Ah, cette galère me tient au cœur. Hein.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois d'octobre de Scène de vie, vie de scène. Une émission coproduite avec Le Tangramme. Cette émission prendra son temps, comme à son habitude, pour parler de spectacles vivants. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, nous sommes installés à la Maison de la Santé, mais nous vous en dirons un peu plus dans quelques instants. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors, en quelques mots, déjà, donner un petit peu le cadre, parce que nous le disions, nous sommes à la Maison de la Santé, nous ne sommes pas dans nos studios. Pourquoi, comment et de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Eh bien oui, nous sommes heureux d'être à la Maison de la Santé, où la Maison de la Santé nous accueille pour notre émission du mois d'octobre, car le thème de notre émission du mois, nous allons parler d'accessibilité, et notamment, plus particulièrement, d'accessibilité aussi à la culture et tout ce qu'on peut créer autour de ce service à rendre à la population. Donc voilà. Donc il y avait une cohérence à être ici, puisque la Maison de la Santé œuvre aussi particulièrement dans ce domaine.
Justement, à nos micros aujourd'hui, nous aurons Julien Baucher et Francine Maragliano.
Oui, alors bonjour Julien Baucher, vous êtes directeur de la Maison de la Santé d'Évreux. Merci de nous accueillir encore une fois. Et puis, nous vous interpellerons sur vos missions et votre travail en ces termes. Madame Maragliano n'est pas encore arrivée, mais elle va arriver en cours de route. Élue à la mairie d'Évreux, en charge des personnes en situation de handicap, accessibilité et aide aux victimes.
Nous recevrons également Audrey Laforce.
Audrey, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Audrey, vous êtes audio-descriptrice, c'est bien cela?
C'est ça, exactement.
Et voilà, on parlera de votre métier, de qu'est-ce qu'une audio-description et du retour peut-être d'expérience que nous avons vécue hier, notamment sur la vie de Galilée.
Tout à fait.
De Bertolt Brecht, pièce de théâtre donnée hier.
Nous recevrons également Sylvain Gris.
Bonjour Sylvain Gris, bonjour. Alors on vous approche le micro et vous êtes, on va dire, le référent du comité de l'association Valentin Huyn à Évreux.
Voilà.
Et merci d'être avec nous. Vous exposerez quelle est votre association, ce comité. Et puis aussi, vous étiez en salle hier en tant que spectateur de la pièce de théâtre de Bertolt Brecht. Et on échangera autour de votre expérience de spectateur lors de cette pièce.
Tout à fait d'accord.
Bien entendu, nous retrouverons l'agenda en fin d'émission, un agenda non exhaustif à notre habitude. Et nous terminerons notre émission avec un extrait de film. Mais comme d'habitude, on ne vous en dit pas plus, vous le découvrirez à la fin de cette émission. Tout de suite, nous vous proposons de partir sur la toute première pause musicale. C'est un choix de Sandy Lavie, en fait, qui travaille aussi sur la Maison de la Santé, qui est dans la pièce, d'ailleurs, avec nous. Oh, si vraiment le cœur lui en dit, elle se rapprochera pour s'emparer du micro, bien entendu, ne serait-ce que pour désannoncer le morceau qu'elle nous a choisi. On l'écoute tout de suite, c'est Imagine Dragons. Ah oui, c'est moi qui l'envoie en fait. Hein. Ouais.
I've tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down.
'Cause I'm on top of the world, hey.
Imagine Dragons on top of the world. C'est un choix de Sandy. Bonjour Sandy.
Bonjour.
Alors en quelques mots, ce choix, pourquoi, comment, qu'est-ce donc ce morceau ?
Alors pourquoi ? Je trouve que c'est une musique assez gaie, joyeuse, qui nous donne envie un petit peu de bouger et puis de soulever des montagnes aussi, comme le dit la chanson. Donc voilà, tout simplement.
Eh bien, très bien, merci beaucoup pour ce choix, Sandy, de l'avoir partagé avec nous. Nous vous le disions dans l'introduction de cette émission, nous recevons Julien Baucher, qui devrait être rejoint prochainement, normalement, par Francine Maragliano, l'élu à la ville d'Évreux, sur les personnes en situation de handicap, l'accessibilité et l'aide aux victimes. En tout cas, Julien Baucher, vous êtes directeur de la Maison de la Santé. En quelques mots, cette Maison de la Santé, qu'est-elle ?
Alors, c'est un lieu un petit peu particulier et on est un service un petit peu particulier dans cette collectivité. C'est une maison qui ressemble beaucoup à une maison des associations. En fait, c'est assez naturel de vous accueillir dans nos locaux aujourd'hui parce qu'en fait, on accueille tout au long de l'année dans ces locaux-là des associations qui viennent y développer des activités dans les trois domaines de compétences que nous avons sous notre responsabilité, à savoir la vie des personnes en situation de handicap, qui est le thème qui nous réunit autour de cette table aujourd'hui, le bien vieillir des seniors d'Évreux et les questions de santé publique. Donc, voilà pourquoi c'est les trois domaines sur lesquels on intervient.
Et justement, nous sommes accueillis tous les mois à la Maison de la Santé avec la radio et le groupe des seniors qui propose l'émission. Et effectivement, c'est dans le naturel que ça se fait, effectivement, comme vous le soulignez
tout
au début.
Alors, l'accessibilité, puisque c'est le thème de notre émission, on en parle depuis de nombreuses années. Depuis 1975, le gouvernement a posé cet axe de rendre accessible à la population en situation de handicap ses transports, ses bâtiments, ses services. Une loi majeure aussi est passée en 2005, incitant vraiment l'ensemble des établissements recevant du public à mettre en œuvre leurs bâtiments pour faire accéder justement ces personnes au service et à la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Et j'avais envie de vous poser à tous les trois la question. Aujourd'hui, où en est-on par rapport justement à cette volonté politique, à cette volonté du pays que de rendre accessible Voilà, qu'est-ce qu'on y met aujourd'hui derrière ? Quels sont les enjeux ? Qu'est-ce qui reste à faire ? Voilà, un peu un état des lieux et une vision de chacun de vous trois sur cette situation. Alors, qui veut commencer, Julien ?
Allez, je vais me lancer. Alors, finalement, la réflexion, c'est est-ce qu'on voit le verre à moitié vide ou est-ce qu'on le voit à moitié plein ? La réalité, c'est que beaucoup de choses ont été faites. Que cette loi de 2005, elle a quand même inscrit pour la première fois un certain nombre de principes dans la loi et que c'est venu, notamment aux yeux des politiques et aux yeux des techniciens que nous sommes, mettre en avant les chantiers qui étaient à mener. Mais il y a aussi... des chantiers qui sont considérables, sans dire parler de soulever des montagnes. Quand on intervient dans ce champ-là, on a l'impression souvent d'être face à des montagnes qui sont difficiles à gravir. Pour être tout à fait franc, Évreux partait de loin. Il y a encore quelques années, on était dans les toutes dernières places du baromètre de l'APF sur l'accessibilité de nos espaces publics. On le dit sans aucun détour. On a beaucoup avancé, on a beaucoup progressé. Et le spectacle que vous avez fait hier soir en est encore une fois la preuve. Mais il reste énormément de choses à faire. Pour que les gens puissent se rendre compte, une donnée toute simple, mais par exemple pour la ville d'Évreux, son agenda d'accessibilité, donc c'est-à-dire cet agenda qui lui impose de mettre en accessibilité ses bâtiments publics, entre autres, c'est 169 bâtiments à mettre en accessibilité sur une durée de 9 ans, avec, vous l'imaginez, tout ce que ça peut amener comme contraintes techniques et budgétaires, à la fois de répondre à des enjeux architecturaux, des fois, parce qu'il y a des bâtiments qui sont, par exemple, protégés, des bâtiments culturels, des problématiques de sécurité incendie, et puis des problématiques tout simplement budgétaires, qu'il faut arriver à gérer, qui plus est dans une période comme la nôtre. Ça, c'est pour la partie visible. Et puis pour la partie un peu moins visible, c'est toute cette politique que nous avons menée sous l'égide de quelque chose qu'on appelle le Grenelle du handicap, sur lequel je pourrais revenir, auquel Sylvain notamment a participé, et qui nous ont fait énormément progresser dans la relation que nous pouvions avoir entre les services de la ville et les associations, et qui nous ont permis de faire ce qu'on ne faisait probablement pas avant, de replacer les usagers eux-mêmes au cœur des dispositifs, au cœur des actions, et de leur laisser la place pour exprimer leurs besoins et tenter d'y répondre.
Quand on parle accessibilité, il y a aussi, alors effectivement, il y a l'accessibilité, on va dire, visible pour le public lambda. Nous, les premiers, quand on voit dans des bâtiments les ascenseurs, des accessibilités pour les rampes, les téléphones qu'on a maintenant sur des accueils, notamment pour les personnes malentendantes. Ça nous paraît, nous, personnes ordinaires, facilement visible. Mais il y a, j'imagine, tout le travail qui n'est pas visible pour les non-usagers de ces aménagements ou de ces adaptations ou de ces accessibilités. Et là, c'est peut-être plus spécifique, j'imagine, quand on aborde des accessibilités plus spécifiques. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête parce que, justement, je ne fais pas partie peut-être de ces personnes usagères de cette accessibilité. Mais la rampe, la place de stationnement, l'ascenseur, c'est des choses très évidentes, en fait, qu'on voit de loin. Mais j'imagine qu'il y a tout un tas de choses aussi qu'on voit moins quand on est une personne valide.
Alors déjà,
ou en tout cas une personne ordinaire, j'ai envie de dire.
Tu as tout à fait raison. Déjà, à notre niveau, on lutte contre cette image d'Épinal qui veut que l'accessibilité, ce soit une rampe ou un ascenseur. Parce qu'en fait, c'est une partie, mais c'est toute petite partie de ce qu'est l'accessibilité. Paradoxalement, celle qui se voit le moins, c'est le concept auquel vous faisiez référence en off avant cette émission, à savoir celle qui est universelle, ce qu'on appelle l'accessibilité universelle. Et le meilleur des exemples que j'ai envie de prendre, c'est la question, par exemple, de la signalétique d'un bâtiment, qui, en fait, est une obligation en termes d'accessibilité et qui, souvent, est totalement soit invisible, soit incompréhensible, et qui fait que le commun des mortels, vous, moi, par exemple, on est en difficulté dans l'orientation dans un bâtiment. Si on se met à la place de quelqu'un qui présente en plus une déficience intellectuelle ou une déficience mentale, ça peut être, on se retrouve dans le schéma des 12 travaux d'Astérix avec une grande difficulté à s'orienter en fait dans un bâtiment. Donc ça, c'est un exemple qui est à la fois spécifique, qui nous amène à travailler pour un type de public, celui qui présente des déficiences intellectuelles, mais qui en même temps va profiter, une fois qu'on l'aura fait avancer, à l'ensemble de la population. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on essaie de travailler et qui n'est pas souvent finalement entendu comme un objet d'accessibilité. Et je précise, qui est pour le coup pas forcément coûteux. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent que de travailler, repenser une signalétique, repenser une communication versus refaire un ascenseur dans un bâtiment.
Oui, peut-être aussi des réactions de vous, Monsieur Gris, Sylvain Gris, qui est au cœur vraiment de cette utilisation, de cette préoccupation, puisque vous faites partie du, vous êtes le référent du comité Valentin Ahuy sur Évreux. Expliquez-nous déjà quel est ce comité qui œuvre pour justement toutes les actions sur le public, les personnes en situation de handicap malvoyante. Voilà, votre point de vue là, sur cette question aujourd'hui.
Alors d'abord, la présentation de l'association Valentin Ahuy. C'est une association nationale avec de multiples services et qui a donc des délégations départementales. Et donc, il y a un comité AVH pour le département de l'Eure. Alors, ce que Julien a dit et qui est très important, c'est que grâce au Grenelle, maintenant, les associations, et donc la nôtre en particulier, nous sommes associés aux différents projets de travaux, par exemple d'accessibilité de la voirie. Alors, ça peut se voir effectivement dans la ville lorsque vous voyez ce qu'on appelle des rails de guidage, mais les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude se demandent effectivement à quoi ça sert. Par contre, lorsqu'ils voient une personne déficiente visuelle se déplacer avec sa canne et suivre le rail, là, elles comprennent ce que cela signifie. Les plages podotactiles, la sonorisation des feux tricolores, etc. Ensuite, pour l'accessibilité des bâtiments, là aussi, les besoins de signalisation sont différents selon le type de handicap. Et l'intérêt de ce travail du Grenelle de handicap, c'est de trouver des solutions qui soient communes et acceptables pour les différents handicaps. C'est-à-dire que en ce qui me concerne, je ne vais pas intervenir. Je vais faire part, bien sûr, des besoins des personnes déficientes visuelles, mais en même temps être à l'écoute des autres besoins et à nous tous d'essayer de trouver la meilleure solution. Et ce qui était important, et on verra donc pour la suite, c'est que l'accessibilité de la voirie et surtout après des bâtiments publics, alors par exemple des bâtiments consacrés à la culture, il ne suffit pas que les bâtiments soient accessibles physiquement, mais que les spectacles qu'on y donne soient eux aussi accessibles.
Oui. Tout à fait. Et là, on est sur une autre phase de l'accessibilité, parce qu'on parle beaucoup d'accessibilité envers un bâtiment, voilà, très concret, physique, mais il y a aussi toute l'offre non matérielle ou matérialisée qui est l'offre de l'éducation, de la culture, de la santé. Voilà. Comment rendre aussi accessible aux personnes en situation de handicap ces domaines de la vie quotidienne? Et là, c'est vrai que je me tourne vers Audrey Laforce. Vous êtes au cœur, parce que vous êtes une opérationnelle, en fait, qui permet cette médiatisation entre une personne en situation de handicap et un accès à la culture.
Oui, évidemment, oui. Oui, tout à fait, par le principe donc, de l'audiodescription. Mais là, je dirais aussi que le chantier, il est vraiment énorme. Moi, le sentiment que j'ai, en tout cas de l'intérieur, c'est qu'effectivement, des lois sont faites, mais les moyens en face ne sont jamais alignés. Donc, finalement, des salles se retrouvent en obligation, et c'est certainement très bien d'avoir l'obligation de rendre accessibles ces spectacles, ces bâtiments et ces spectacles. Mais quand on n'en a pas les moyens, c'est un petit peu difficile. Et alors après, si les moyens n'existent pas, il y a aussi parce que moi, je crois qu'on prend le problème un petit peu parfois à l'envers. Donc, ce sont les salles qui sont obligées. Moi, je pense que ce sont les créateurs de spectacles qui devraient être obligés, lorsqu'ils produisent et qu'ils créent un spectacle, de produire l'audiodescription en même temps. C'est-à-dire que si l'audiodescription ou le partage en langue des signes ou en tout cas le surtitrage des spectacles, hein, selon les systèmes que l'on choisit, était pensé dès le départ, il n'aurait quasiment aucun coût, parce que les coûts seraient amortis, comme les coûts du décor, comme les coûts de voilà, dans le prix de cession du spectacle serait inclus. Une audiodescription, c'est 2 à 3 000 euros selon la durée du spectacle, l'écriture, pas après une fois qu'elle est écrite, je parle bien de la création. Donc c'est une somme qui est vraiment ridicule par rapport au niveau des sommes qui sont mises dans les créations de spectacles. Alors, en tout cas, les grandes structures, au moins les centres dramatiques nationaux, je pense. Et après, si tous les théâtres savaient que des spectacles produits par ou coproduits par des centres dramatiques nationaux avaient leur audiodescription, bah, il suffirait donc quand on programme ces spectacles, de les programmer avec l'audiodescription, qui là, pour chaque structure, est un coût dérisoire, qui va dans les 300-400 euros, je veux dire, sur un prix de cession. Voilà. Donc les systèmes, ils existent, comme on disait tout à l'heure, ils sont finalement assez simples. Après, il faut œuvrer, et comme on est tous des petits colibris, effectivement, comment on peut réussir à se regrouper pour que se regrouper, ou en tout cas faire entendre cette parole-là. Alors moi, j'essaie d'y œuvrer. Encore une fois, je suis un colibri, donc je mets mes gouttes. Et puis petit à petit, on espère qu'on va éteindre l'incendie. Mais y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà, après...
Dans ce que vous dites, moi j'entends, c'est que cet enjeu d'accessibilité, alors il y a un enjeu institutionnel bien entendu, ouais. Mais il y a un enjeu individuel en fait de chacun d'entre nous finalement. C'est comment tout à chacun, personne ordinaire j'entends, qui ne présente aucune difficulté particulière, intègre dès ses conceptions, dès ses réflexions, dès qu'il pose son regard en
tout
fait
citoyen,
finalement, cette ouais. question de l'accessibilité.
Tout citoyen devrait intégrer ça. Alors, c'est ce que font parfois les associations aussi, quand, par exemple, des personnes non-voyantes vont dans les écoles primaires pour expliquer le handicap visuel aux enfants. Ça fait partie, mais là aussi, ça n'est pas... Je veux dire, tout enfant passant par le système scolaire ne va pas forcément rencontrer ça, que sur les handicaps, ces sensibilisations au handicap. Plus on est sensibilisé au handicap, plus on est inclusif, parce que ça veut dire que chacun d'entre nous en est conscient, peut accompagner, peut œuvrer aussi. Moi, depuis 2018, j'enseigne à l'Université de Lyon 2 sur cette question-là. Et je me dis, chaque année, on a quand même 15 étudiants qui potentiellement vont intégrer des grandes structures culturelles à l'issue de leurs études et qui auront eu, dans leur parcours universitaire, ce travail, puisqu'ils font une audiodescription de A à Z. Donc, mais du coup, on parle aussi d'accessibilité un peu plus générale, même si nous, notre sujet, c'est l'audiodescription. Voilà, il faut aussi... Moi, maintenant, j'ai des demandes dans les écoles nationales de théâtre, et je me dis ça aussi, parce que nombre de fois aussi, moi, quand j'arrive, les acteurs sont... Mais ça leur passe, mais au-dessus de la tête. Et finalement, leur demander de venir se présenter, faire entendre leur voix... Oui, alors selon si sont les équipes, si gna gna gna, non, on ne va pas oser leur demander. Mince, on devrait tous penser que c'est le minimum, j'ai envie de dire, dans notre métier, que de venir faire entendre sa voix lorsqu'on accueille des gens qui n'ont que ça comme outil, leur oreille, pour pouvoir identifier des personnages. Mais ça n'est pas évident. Alors on œuvre et on va continuer et on y arrivera. C'est vrai que... Aujourd'hui, ça reste un endroit de militance, oui. Alors que ça ne devrait pas, en fait. Ça ne devrait pas être un endroit de militance, mais c'en est un et on est obligé de...
Oui. Voilà. Je rebondis vraiment sur ce que vous dites, où on part de loin. On est, parce qu'on a vraiment le sentiment, enfin, pas sentiment, ça s'est construit sur des oppositions. Enfin, le handicap a toujours été mis à part. Voilà, on ne faut pas se cacher, hein. On part de là, on part de handicap, c'était à côté, c'était à part, il faut remonter. Moi j'ai envie de vous dire, des fois on a envie qu'il y ait un coup de poing comme ce qui a été fait sur la parité, parce qu'à un moment on dit, boum, c'est comme ça, et on oblige.
Mais c'est ce qu'ils font avec les lois, mais encore une fois, c'est ce qu'ils font avec cette loi de 2005 notamment, mais qu'ils n'arrêtent pas après de donner des autorisations pour finalement, on va faire plus tard, parce qu'encore une fois, on écrit des lois, mais en face, il n'y a pas de concret, il n'y a ni les moyens, ni... Et puis peut-être la loi, elle est pensée comme une idée... qui est très, très louable, très légitime, comme la parité. De toute façon, toute la défense des minorités oppressées, parce que c'est bien de ça dont on parle,
tout à fait, ouais.
Elle est évidemment louable, mais, encore une fois, si c'est simplement écrire des lois et puis de se dire bon, bah, super, on a fait notre, on a fait notre boulot, nous, mais derrière, ça ne suit pas, on doit se battre pour ça, quoi, dire ok, faites des lois, mais derrière, mettez les moyens.
Et peut-être des réactions sur la Maison de la Santé par rapport à ce qui est dit et comment ça avance et...
Je ne peux que souscrire à ce discours autour des moyens, bien évidemment. Nous, à notre niveau, ce qu'on essaie d'avoir, c'est un discours honnête et transparent sur les moyens dont on dispose. Ce serait mentir de dire qu'on peut répondre à toutes les problématiques, à toutes ces questions-là. C'est faux. On n'a ni les moyens humains, ni les moyens financiers pour le faire. Par contre, ce qu'on sait faire et ce qu'on a le droit de faire, c'est de discuter, d'échanger et de retrouver des solutions, des situations de consensus d'un côté comme de l'autre. Je parlais tout à l'heure de difficultés parfois, de croisements entre différentes politiques. Dans les réunions qu'on fait autour de projets, parfois on explique qu'on ne pourra pas aller dans une accessibilité à 100%, que cette rampe-là ne pourra pas correspondent aux 5% que la loi nous impose, mais qu'on peut-être en faire une à 5,5 ou à 6, et que si on la fait pas comme ça, on pourra pas la faire du tout. Donc c'est un dialogue qu'on doit avoir, ou idem sur l'implantation d'un rail de guidage. Je trouve qu'on sort enrichi par cette posture-là, parce que je pense que quand on explique les choses aux gens, aux usagers eux-mêmes, et Sylvain, tu pourras peut-être dire ce que t'en penses, les gens sont pas bêtes, ils comprennent. Ils savent bien dans quelle société on vit, ils savent bien qu'on ne peut pas tout faire, qu'on n'a pas des moyens extensibles. Mais simplement, il faut dialoguer et trouver ensemble des solutions. J'ai toujours ce souvenir, il y a cette place du Grand Carrefour, où on a essayé d'en faire un exemple d'accessibilité. On y a mis ce rail de guidage, notamment sur une partie de la rue. Et à l'époque, on n'avait pas spécialement échangé étroitement avec toi, Sylvain, sur l'implantation de ce rail. Et puis après coup, une fois que le chantier était fini, on était ravis. On a été confronté à deux difficultés. Un, des commerçants qui posaient sur ce rail de la publicité. Et il a fallu y aller une fois, deux fois. Et ce n'était pas de leur faute. Ils ne comprenaient tout simplement pas, comme le disait Sylvain, ce à quoi ça servait. Donc ça nous mettait en avant qu'il y avait aussi un plaidoyer à faire, une pédagogie à faire, pour faire comprendre à ces personnes, à cette population qui n'est pas confrontée au handicap, ce à quoi servent ces aménagements. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'à un moment donné, Sylvain, il nous a dit « C'est bien votre rail, mais bon, grosso modo, il ne sert pas à grand-chose ». Parce qu'en fait, nous, quand on se déplace, si la rue est étroite, finalement, on n'a pas de difficulté à se déplacer. On va soit se référer au trottoir d'un côté, soit au bâtiment de l'autre. Et en l'occurrence, ce rail, il est sur une rue qui est relativement étroite. Alors, il ne sert pas tout à fait à rien. Je ne devrais pas dire ça, sinon on va me taper sur les doigts. Mais en tout cas, on était enrichis par quoi ? Par l'expérience des usagers. Et je pense qu'il n'y a pas mieux placé que les personnes en situation de handicap elle-même, pour nous guider dans les aménagements, dans ce que l'on fait. Donc voilà, oui, c'est un sentiment de responsabilité qui nous anime, mais aussi, je dois le dire en ce qui nous concerne, une vraie fierté d'avoir réussi à nouer ces contacts qui sont enrichissants sur le plan humain. Un sujet sur lequel j'aimerais aussi revenir, c'est qu'il y a eu des tentatives par le passé, il y a eu des choses de fait. Je pense à mes collègues de la médiathèque qui ont développé des espaces spécifiques pour les personnes sourdes, pour les personnes non-voyantes. Et il y a aussi une frustration du côté des promoteurs qui parfois ne trouvent pas leur public. C'est-à-dire qu'ils vont faire beaucoup d'efforts, parfois pas de façon co-construite, mais en tout cas, ils vont faire beaucoup d'efforts et qui vont être frustrés de ne pas trouver de public en face. Il y a un des exemples que nous prenons, on développe maintenant depuis un peu plus d'un an avec le cinéma Pâté, des séances de cinéma accessibles aux personnes en situation de handicap. On fait un effort de communication important pour arriver à attirer ce public en situation de handicap qui, de facto, s'est mis hors jeu, en fait, de l'offre culturelle, qui a intégré, en fait, que de toute façon, ce n'était pas des lieux qui leur étaient accessibles, que ce soit dans son fond et dans sa forme. On le sollicite, on le mobilise et on peut compter pour le coup sur le réseau associatif et sur cette qualité de la relation qu'on a établie pour que ces séances de cinéma soient fréquentées. On a eu la chance, c'est vrai, avant cette crise sanitaire, d'attirer des gens qui n'étaient jamais venus au cinéma. On a eu des personnes âgées d'un EHPAD, 80 ans, qui n'avaient jamais mis les pieds dans un cinéma et qui avaient pu, grâce à ces séances-là, où on peut s'exprimer librement, bouger en salle, etc., venir au cinéma, ou des parents venir avec des enfants autistes pour la première fois, ou revenir sans avoir la crainte qu'il va y avoir un jugement de l'autre. Donc, derrière tout ça, il y a aussi la nécessité, et je pense notamment à ce que le Tangram est en train de développer, et c'est notre devoir de responsabilité, nous, en tant que service, d'arriver à rendre l'offre compréhensible et lisible pour le public. Parce que là, pour le coup, il y a un chantier qui reste aussi hyper important.
Alors, je vous propose qu'on fasse une pause musicale et qu'on revienne justement sur, notamment plus sur la partie culturelle et artistique et dans tout ce qui se met en place sur notre territoire à l'heure actuelle. Alors, pause musicale de vous, Julien, je crois.
Ouais.
Liam Gallagher avec All Right Now. On la diffuse puis on la débriefe après.
Avec plaisir. Well, you moved to LA first time under the law. Yeah, you had your fun, so you thought it's time to move on. But the pretty girls from the underworld made it easier said than done. Yeah, soon enough you were hanging out, you were back where you begun. But maybe it's all right now. Well, it rained 3 days till the street began to flood. Everyone took off, they said they'd had enough. Since 26, since 40 licks, you've been moving through the fog. Yeah, you never said what you really meant. Did you think that it would stop? But maybe it's all. Just stay strange and drink away the emptiness. Paranoid, the essayist will end the game by kicking in your door.
Liam Gallagher avec le titre All Right Now. Julien, c'est un de vos choix. Quelques mots sur ce choix.
Ben, écoute, c'était l'envie de mettre en avant la carrière solo de Liam Gallagher, qui est le chanteur Oasis, qui était souvent catalogué comme un simple chanteur et qui, depuis maintenant quelques années, est passé à la composition avec un projet personnel. C'est un titre qui me plaît beaucoup parce que je suis un grand fan des Beatles et il a des sonorités très Beatles, très Lennon. Donc j'avais envie de mettre en avant des morceaux qui ne sont pas forcément grand public et qui me plaisaient bien.
Eh bien, merci Julien, c'est un vrai plaisir. Je rappelle que nous sommes toujours dans Scène de Vie, à la Maison de la Santé, pour parler accessibilité de la manière la plus large possible. Accessibilité à la culture, bien entendu, parce que ça fait partie de nos préoccupations, de notre émission Scène de Vie. Mais pas seulement, en fait, hein, nous aimons aussi nous ouvrir. Donc nous sommes avec Julien Baucher, directeur de la Maison de la Santé, Audrey Laforce de la structure Voir par les oreilles, et puis Sylvain Gris du comité Valentin Aoui. C'est comme ça qu'on dit, Aoui, je crois. Voilà. Moi, j'avais une question toute bête. On parle d'audio-description depuis tout à l'heure, notamment un des spectacles qui s'est joué hier sur le Tangram était en audio-description. Et j'avais envie de demander à Audrey, mais alors finalement, qu'est-ce qu'il y a dans une audio-description ? J'ai déjà vu passer ça, moi, sur les films de France 3, notamment. Pas sur toutes les chaînes, mais sur France 3 en particulier. J'ai un mémoire comme ça. Arte également. Bon, moi, je suis assez nul avec ma télécommande. J'ai jamais accédé, moi, à cette partie-là. Mais globalement, qu'est-ce qu'on retrouve dans une audiodescription ?
L'audiodescription, après on laissera aussi parler, je pense, Sylvain, qui pourra nous dire, mais en fait, l'audiodescription, c'est très simple. Alors, c'est bien pour les aveugles et non pas pour les sourds, hein, parce que moi, on me fait le coup tout le temps de me dire « Ah, c'est pour les sourds !» Non, alors non, ils n'entendent pas, donc non. Donc, en fait, on décrit les éléments visuels d'un spectacle ou d'un film. Et en fait, le principe général, c'est qu'on parle entre les parties dialoguées. On ne parle jamais sur les parties dialoguées, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Et donc, notre rôle, c'est d'utiliser nos yeux pour décrire ce qui n'est pas immédiatement identifiable par le son. Parce qu'il y a certaines fois, voilà, si on sert un verre d'eau, on va entendre. Mais qu'est-ce qu'on sert ? On va entendre le bruit de l'eau ou le bruit des verres qui se choquent, mais qu'est-ce qu'il y a ? Alors, parfois, ce n'est pas important que ce soit du whisky ou de l'eau, mais parfois, c'est très important dans une histoire de savoir quel type de breuvage ils boivent. Voilà, c'est tout ça. Et puis, il y a des moments, et ça, Sylvain va peut-être pouvoir en témoigner, où, véritablement, si on ferme les yeux, qu'on écoute le spectacle, c'est comme ça, moi, que je travaille, d'ailleurs, tout d'un coup, je relève les yeux quand je me dis, là, il me manque quelque chose. Si je fais que écouter la vidéo, parce que je travaille sur les vidéos des spectacles, il me manque quelque chose. Et là, je me sers de mes yeux pour savoir ce qui se passe et ce petit bout qui me manquait. Peut-être Sylvain.
Ah bah oui, alors, Sylvain, du coup, sur l'audiodescription.
Alors, on a effectivement, pour ceux qui ont assisté au spectacle d'hier soir, un très bon exemple avec le début. Au début, je dirais, on a bien 5 bonnes minutes de silence complet. C'est-à-dire que Galilée, donc, il est en train de se réveiller, etc. Et tout ça en silence. Et donc, ce n'est que par l'audiodescription, donc ce que Audrey nous a envoyé dans le casque, qu'on savait effectivement ce qu'il faisait.
J'imagine que c'est essentiel parce que c'est l'ambiance. Enfin, quand on a en plus en début de spectacle 3-5 minutes de silence, c'est bien qu'on arrive dans une ambiance finalement. C'est tout aussi essentiel que du texte d'ailleurs. Les silences sont tout aussi importants que le texte parfois.
Bien sûr. Ben, c'est-à-dire que nous qui voyons effectivement, on ne se rend plus compte qu'on est nourri autant par le visuel que par le sonore. Alors après, et puis ce visuel a beaucoup nourri notre imagination. Ça, c'est une des choses qui reste un mystère pour nous qui sommes voyants, c'est-à-dire comment, puisque nous, notre imagination, elle se construit par des images essentiellement. Et d'ailleurs, quand moi j'enseigne aussi le théâtre dans un conservatoire, je travaille énormément sur cette question de l'image avec les élèves, c'est-à-dire pour qu'ils puissent reproduire des émotions et tout. Alors après, nous, notre rôle, ça va être effectivement de restituer aussi une ambiance, alors par le choix du lexique qu'on va faire, parfois aussi les intonations qu'on va donner. Parce que ce qui est important aussi, c'est de laisser respirer ces silences. Moi, je n'aime pas abreuver en permanence, y compris dans un temps silencieux. Où les temps musicaux, nous sont très utiles. Les audiodescripteurs, on est content parce qu'on peut quand même poser notre voix sur la musique quand il y a des parties musicales. Mais il faut aussi la laisser vivre, cette musique, parce que pour celui qui voit, il y a quelque chose de visuel, mais il y a aussi ce son qui nous envahit, qui est aussi très important. Alors c'est un équilibre à trouver, chercher toujours aussi, on en discutait hier, c'est-à-dire quelle est l'information importante. On est obligé d'hierarchiser, hein, puisqu'on on travaille dans les interstices, parfois c'est très rapide. Parfois, les acteurs nous jouent des tours parce qu'ils raccourcissent, évidemment, c'est du spectacle vivant. Alors, par exemple, le début du spectacle hier, ça, c'est formidable parce qu'il fait à peu près tout le temps la même chose. Ça peut changer en tournée quand le spectacle a eu une longue vie. Donc, moi, il y a des fois, je me rends compte que j'ai des imperfections, que je me dis, ah ben tiens, il fait ça alors qu'il ne faisait pas ça. Là, en plus, c'est dans un moment où c'est extrêmement sombre. Donc, moi, je ne vois pas forcément bien le plateau. Donc, je suis obligée d'y aller aussi à la ressenti, quoi, d'une certaine manière, pour bon, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est formidable de pouvoir accompagner. Enfin, moi, c'est quelque chose, de pouvoir transmettre ça, partager, c'est vraiment un partage, quoi. C'est-à-dire, nous, on se sert de quelque chose qu'on a. Alors, moi, à l'inverse aussi, je suis beaucoup nourrie par les retours et puis aussi par les discussions que je peux avoir avec des personnes malvoyantes. Moi, j'ai appris, par exemple, à décrire les couleurs. Et ça m'a énormément enrichi. Ça a même, je dirais, d'une certaine manière, changé ma perception des couleurs et d'apprendre comme ça, de me dire comment on peut apprendre le vert à quelqu'un. Ou le rouge, ou et là tout d'un coup ça m'a ouvert vraiment un imaginaire fantastique.
Moi, je suis très curieux, du coup, j'aimerais bien que vous m'en parliez du rouge, par exemple, ou du vert. Alors, pour le coup, ouais. Et puis que les auditeurs, la radio est très bien faite d'ailleurs pour l'audiodescription, hein, d'ailleurs.
Ah,
c'est
oui,
fait
oui.
Pour. Hein,
Moi, je suis venue à l'audiodescription parce que je suis une grande amoureuse de la radio et que, en fait, voilà, bien sûr, que je dis souvent, j'écoute le monde plus que je ne le regarde. Mais bon, je le regarde aussi, mais oui, bien sûr que la radio, c'est un média fantastique. Eh bien. Évidemment, après, quand on va travailler sur les couleurs, on va travailler, par exemple, le rouge. Moi, le bonnet de mon micro est rouge. Le rouge, c'est en plus intéressant parce que c'est une couleur qui est très paradoxale puisqu'elle est à la fois le symbole de la violence, mais elle est aussi le symbole de l'amour. Alors, on ne peut pas dire que l'amour soit toujours violent, mais en fait, c'est parce qu'on va l'associer après à tous les objets, nous, de notre quotidien, qui vont nous entourer. Bon, bah, par exemple, le camion de pompier, il est rouge. Parce qu'il doit être visible. Quand on met quand quelque chose dépasse de notre voiture, on est obligé de mettre un chiffon rouge parce que le rouge se voit et avertit de ce danger. Souvent, les sirènes, les gyrophares sont d'une couleur rouge ou orange. Voilà. Mais le rouge, c'est aussi là bientôt, enfin pas bientôt, mais au mois de février, il y a la Saint-Valentin qui nous a envahis et toutes les vitrines sont rouges. C'est bien la couleur de l'amour, mais parce que le rouge, c'est aussi tous les fruits sucrés. Donc c'est la fraise, c'est la cerise, ce sont donc des textures. Donc on va après travailler, quand on va apprendre comme ça, on va travailler sur les textures. Sur les verres, évidemment, on va pouvoir aussi servir de le verre, par exemple, de toutes les herbes aromatiques. La menthe n'a pas la même odeur que le basilic, qui n'a pas la même odeur. Voilà. Donc, on va aller travailler sur du toucher quand on peut. Le verre, c'est la tranquillité. C'est quelque chose voilà, cette sensation. Et on va travailler sur la sensation. Quand je pense au verre, je pense à une tranquillité parce que la forêt, voilà, le verre va être beaucoup associé à ça. Donc, on va partir sur des notions à la fois, j'ai envie de dire conceptuelles, philosophiques, mais aussi historiques. Alors, en plus, on a la chance, on a un grand historien des couleurs en France, hein, Pastoureau qui fait des livres sur l'histoire des couleurs, qui est absolument fantastique. Donc voilà, on va et puis après. Évidemment, dans une audiodescription, on ne va pas apprendre les couleurs, mais en revanche, le fait d'avoir cette connaissance de le rouge, qui est à la fois l'amour, la violence, de toutes les représentations qu'on va pouvoir construire, parce qu'après, il y a toute une échelle hein, des couleurs. Il y a le 0, voilà, de 0 à 1, il y a 0,1, c'est un certain rouge, 0,2, c'en est un autre, 0,3, on va travailler aussi sur les intensités. Puisque, effectivement, quand on regarde un nuancier, il y a énormément de rouge, énormément de vert, énormément de bleu, etc. Et donc, Après, nous, on va s'en servir. Moi, avec les étudiants que je forme à l'audiodescription, justement, je leur dis, si à un moment donné, l'éclairagiste met du vert, qu'est-ce que ça nous évoque ? Parce que le vert, ça peut être aussi, c'est aussi le, quand on est malade, on est vert. Enfin, vous voyez ? Donc, le vert n'est pas que la tranquillité. Parfois, le vert, et notamment dans les lumières au théâtre, il est utilisé plutôt pour créer un malaise, pour créer quelque chose d'une sensation assez maladive. Donc, voilà, toutes les couleurs, elles ont comme ça un tas de significations. Donc, nous, on va pouvoir se servir. On ne va pas dire peut-être que la scène est éclairée en vert, mais on va parler d'une ambiance qui met mal à l'aise. On va peut-être évoquer ça dans l'audiodescription, par exemple. Voilà, après, ce sont des outils dont il faut s'emparer et qui, encore une fois, ouvrent les champs. Qui, en fait, quand on démarre le métier, au bout de quelques années, on se dit que c'est quand même très limité il y a quelques années, parce qu'on s'enrichit beaucoup, y compris de nos erreurs et puis, encore une fois, de nos échanges. C'est ça qui est bien, ouais.
Oui, c'est pour l'avoir vécu aussi de l'intérieur, puisque je me suis mis vraiment en condition de spectatrice malvoyante, où je l'ai fait avec le casque et je fermais les yeux autant que je pouvais pour vraiment être en immersion. On sent vraiment la question de partage. Et ce que je voulais aussi préciser, c'était le fait que ce soit une audiodescription en direct. Vous êtes voilà, c'est pas enregistré, c'est pas une bande qu'on diffuse, parce qu'on voilà, en théâtre, d'avoir aussi cette chance d'avoir ce vivant et cette adaptation à ce qui se passe sur le plateau, je trouvais ça extrêmement riche.
Oui, bien sûr. Bien
et
sûr.
Vivant aussi.
Voilà.
Après, et à la fois très bien positionné, neutre et vivant, comment vous dire ?
C'est ça, oui. Ben c'est pareil, hein. C'est un petit équilibre à trouver. Après, l'enregistrer, c'est formidable. Après, l'enregistrer, elle peut être aussi très vivante. Évidemment que pour le cinéma dont on parlait tout à l'heure, c'est fantastique parce que ça permet tout d'un coup... Alors, en cinéma, elles coûtent plus cher, les audiodescriptions, parce que les audiodescripteurs se font payer beaucoup plus cher. C'est le truc du cinéma. C'est comme les acteurs de théâtre et les acteurs de cinéma. Il y a les mêmes différences. C'est le même boulot, mais... Et du coup, c'est vrai que pour le spectacle vivant, on milite sur le direct, parce qu'il y a quelque chose aussi du partage qui est quand même beaucoup plus... Et puis c'est vrai que quand on a audio-décrit un spectacle, vraiment, quand on commence le spectacle, on passe plusieurs heures, on passe 50 à 60 heures sur un spectacle pour le décrire, sur un spectacle de 2 heures à peu près. Bon, ça dépend des spectacles. Les spectacles, on met moins de temps, puis d'autres plus. Il y a un tas de paramètres donc qu'on ne peut peut-être pas aborder ici. Mais... Donc vraiment, on connaît... le spectacle, sa dramaturgie. On a compris aussi, on a fait des recherches pour comprendre pourquoi le metteur en scène fait ce choix-là, plutôt que le scénographe, etc. Donc on finit par être très, très intime avec l'équipe qui ne nous connaît pas, qui la plupart du temps ne nous calcule pas, mais nous, on les connaît bien. On peut citer leurs répliques parce qu'on est calé sur des mots, sur des respirations. Moi, je respire avec les acteurs. Et c'est vrai que du coup... Ça permet aussi, je pense, de restituer au moment où on l'a fait un peu de... Sylvain me disait à des moments qu'il j'avais fait passer des émotions. Alors, je ne m'en rends peut-être pas compte, mais je vais peut-être nous dire. Mais évidemment, on vit avec le... Alors que quand on l'enregistre dans un studio, je pense qu'on est peut-être moins... par rapport au spectacle vivant, c'est... Ah,
oui. Je trouve cohérent. Oui, Sylvain.
Oui, je t'avais même posé la question, si tu faisais de l'audiodescription sur une pièce de théâtre comique, par exemple, et que ça t'arrivait de te laisser prendre dans le spectacle et te mettre à éclater le rire.
Voilà, alors est-ce que je disais, alors évidemment, je ne prends pas des fous rires parce que je m'y attends, mais ce que je disais, c'est que je pense qu'il y a des moments où on entend vraiment le sourire dans ma voix, parce qu'il y a des acteurs qui me cueillent à chaque fois, qui sont très drôles ou que j'aime beaucoup et qui me cueillent presque à chaque fois. Donc, bon, ben, je me régale, hein. Je me régale avec eux. Mais voilà, on entend le sourire, j'essaye de... Mais il m'est arrivé parfois peut-être de rire un peu. Mais alors, ce que je disais, c'est que comme moi, je suis au micro, je peux des fois aussi... dire un petit commentaire, dire quelque chose, expliquer si besoin, ou à la fin, je dis alors, bon, voilà, on est en contact, quoi.
Il y a un échange, un échange, partage. Compléter aussi, parce que on a eu la chance hier de le faire aussi, d'avoir une visite sensorielle et tactile du décor, voilà, où du coup le groupe, voilà, rendre compte de cette expérience-là qui complétait totalement l'audiodescription pour moi.
Voilà. C'est une. Effectivement, ça, c'est une partie importante avant le spectacle. Et je dirais que c'est même un privilège puisque les spectateurs ordinaires n'ont pas cette possibilité, c'est d'aller donc effectivement sur la scène, de pouvoir toucher les décors, les costumes, les accessoires, et d'avoir déjà une première description, effectivement, de comment les choses vont se passer. Et ça, ça nous aide ensuite à suivre le spectacle. Par exemple, les différentes scènes, elles étaient normalement projetées au-dessus de l'écran, et tu nous les annonçais au fur et à mesure. Et nous, on le savait que c'était comme ça que ça allait se passer.
Oui. Oui, tout à fait. Mais c'est absolument indispensable, ça aussi. Moi, je milite beaucoup pour ça, pour qu'il y ait ce qu'on appelle la visite tactile avant. Alors, il y a des fois, on ne peut pas aller sur le plateau pour des questions techniques, soit parce qu'ils font la mise, soit parce qu'il est vraiment difficile d'accès. Il y a des décors qui sont... Je me souviens d'un spectacle de Simon Stone, c'était carrément une maison sur scène, donc vraiment une petite maison. Alors les acteurs évoluaient à l'intérieur, ils étaient sonorisés avec plein de petites marches, une maison un petit peu scandinave comme ça. C'est difficile d'accéder. En revanche, c'était très important puisque c'était un spectacle où il y avait une simultanéité, puisqu'il y avait un qui était dans la pièce en haut, un en pièce en bas, un qui était aux toilettes pendant que l'autre. Bon, donc ça, c'était important de pouvoir expliquer ce dispositif avant, pour dire, ben, parfois il se passe des choses, je ne pourrais pas les décrire, mais sachez qu'en parallèle, il se passe tout le temps visuellement quelque chose dans cette maison. Ou là, voilà, par exemple, hier aussi, dire, sont projetés, et ça, c'est, et puis de dire que c'est dans l'écriture de Brecht qui annonce toujours en préambule des scènes où elles se passent, quels sont les protagonistes et ce qui va se passer, c'était projeté. Donc, dire qu'après, voilà, la mise en scène a pris ça, et donc... voilà, c'est vrai que c'est important, et puis que ça crée du lien aussi, toujours, mais il faut les mettre en place, ouais, ces visites.
C'est voilà, dans toute la dimension d'inclusion, comme on parle maintenant, c'est vraiment un tout de faire entrer dans la globalité du spectacle. Je trouvais ça super intéressant et on va essayer d'œuvrer à cela autant grave, en tout cas, dans le projet de continuer justement dans l'offre de spectacle en audiodescription. Ouais. Eh bien voilà, le temps passe, et on peut faire une émission d'une heure et demie facilement, mais nous n'avons qu'une heure à la grille. Vous avez choisi un morceau, Audrey, que j'aimerais vraiment qu'on diffuse, People Get Ready, des Blind Boys of Alabama. Deux mots, puis on l'écoute après, parce qu'après on passera à l'agenda.
Eh bien oui, évidemment, j'avais envie de faire entendre des artistes donc qui sont non-voyants, qui sont aveugles, les Blind Brothers of Alabama. C'est un très très vieux groupe de gospel américain, et ils ils se sont rencontrés à la fin des années 30 à l'Institut pour noirs aveugles d'Alabama, et eux, ils ont dû vraiment lutter contre deux aspects quand même compliqués dans leur vie, c'est-à-dire la cécité et la ségrégation raciale. Ils vivent encore aujourd'hui. Jimmy Carter, qui a fondé le groupe à 87 ans, ils se produisent encore sur scène. Ils sont assez exemplaires. Ils ont eu un petit creux de la vague, mais ils sont toujours là, vaillants, et voilà.
Eh bien, on les écoute.
People get ready, there's a train a-coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket, you just thank the Lord.
People get ready for the train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key, open up the door and border. There's hope for all among those who love. Most.
sinner who would hurt all mankind just to save it all. Have pity on those whose chances grow thinner at no hiding place against the kingdom throne. People, get ready, there's a train coming. Don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith, and hear the Jesus humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord.
People get ready des Bling Boys of Alabama. Voilà.
C'est la petite Jo qui a toujours un titre anglais pour JC, qui adore parler anglais.
Ah, bah, c'est ma spécialité, hein, l'anglais ma spécialité, hein, qu'on se le dise. Nous arrivons tout de suite maintenant sur l'agenda, parce qu'on va on va le compresser sur cette fin d'émission.
JC.
Mais voilà, je vais commencer par ça.
Commence
alors.
Par l'agenda moi.
Pour le 10 octobre, il y a les pop-up parties du moulin de la gare aux musiques de Louviers. Cette année, ça se fera au moulin sur une des conditions d'accueil assez spécifiques, mais ce sera donc au moulin de Louviers. C'est les sorties de résidence des trois groupes qui ont été accompagnés durant l'année, des concerts tirés au cordeau, parce que les gars, ils ont quand même eu un an de travail avec la gare aux musiques. Donc on vous y invite 10 octobre au moulin de Louviers pour les pop-up parties. C'est la fête de la science du 5 au 11 octobre sur Évreux. Alors, beaucoup de choses se font aussi à distance. Beaucoup d'animations ont été prévues à faire de chez soi. Les conditions particulières sanitaires permettent de visiter énormément de lieux, de participer à beaucoup d'animations, de conférences par Internet. Il y aura bien entendu un village physique sur le week-end du 9, 10, 11. Voilà. On vous invite à vous renseigner sur Internet. Voilà, fête de la science Évreux, et vous trouverez toutes les informations. Et puis, porté en partie par la Maison de la Santé, c'était Sandy qui me le glissait dans l'oreille. Le 10 octobre, il y a le film Polly qui est projeté au Ciné-Pâté d'Évreux, accessible à tous. C'est vraiment une séance accessible à tous. Il y aura audio description, sous-titrage bien entendu. Et là, Sandy me glissait dans l'oreille, précise que c'est pas plus mal si les gens se signalent en amont, ça permet d'avoir des bénévoles en accueil sur place suffisamment, donc vous pouvez si vous êtes intéressé par cette séance, vous pouvez bien entendu vous manifester auprès de la Maison de la Santé, 02 32 78 27 76. Ça, c'est Sandy qui va centraliser les informations. Bien entendu, quand on dit accessible à tous, bah, c'est à tous en fait, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la séance du 10 octobre avec le film Polly.
Alors, et on termine, le temps nous presse. Moi, je voulais parler d'une pièce de théâtre, Alabama Song, Guillaume Barbeau qui met en scène ce texte de Gilles Roy. C'est à partir du 15, 16 et 17 octobre à Évreux, au Tangram, au théâtre à l'italienne, théâtre Legendre. C'est un lien où il y aura un événement avec les CMEA et le CHS sur la semaine, ou je crois le mois de la santé mentale. Je crois que c'est la semaine de la santé mentale. Et le 15 octobre, les CMEA et le CHS projettent un film de Garance Scharf qui s'intitule Anna, où l'on suit la vie d'une jeune femme schizophrène qui a été filmée par sa meilleure amie. Et on est vraiment au plus proche de l'intérieur de sa vie et de comment aussi elle s'en sort. Et voilà, elle va vers le vivre ensemble. Voilà, de tout ce qu'on a essayé de faire passer aujourd'hui à travers cette accessibilité. Et
ça nous amène sur la séquence de fin de cette émission. Alors.
Voilà, puisque je vous propose, donc, il y aura Anna de proposer, suivi du spectacle Alabamaçon, qui est en lien aussi avec justement voilà, c'est la vie de Zelda Fitzgerald, la femme de Scotch Fitzgerald, ce grand écrivain américain, qui n'a pas eu une vie facile et qui a fini, où son mari l'a interné dans un asile américain. Donc voilà, c'est une belle journée proposée pour le public de se sensibiliser aux maladies mentales et de finir avec une pièce de théâtre. Donc on propose un extrait de ce film, Anna de Garance Scharf. Et on se retrouve le 6 novembre.
Voilà, ce que je trouve fabuleux en fait, c'est qu'avec toutes les couilles que j'ai eues, pourtant j'ai que 17 ans, tu vois, avec toutes les couilles que j'ai pu avoir pour mon âge, je continue. Et c'est ça qui est merveilleux, tu vois. C'est de pas m'être écroulée comme une vieille merde, tu vois, et...